Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. La croisière. Dans un épisode précédent, je vous avais parlé de la rencontre du vicomte Isidore de la Malventrée et de Josip Roman, ce dernier ayant rejoint l'entreprise du premier. La compagnie d'études et de fabrication de vaisseaux spatiaux Saint-Christophe, entreprise spécialisée dans les vaisseaux de luxe, évidemment à destination d'une clientèle huppée. Une certaine émulation, l'envie ou tout simplement de la jalousie va pousser de nombreux concurrents à vouloir se positionner sur le marché. Là où il y a du fric à se faire, la Saint-Christophe ayant choisi de fabriquer peu d'unités pour satisfaire au moindre désir de ses clients et ainsi peaufiner la conception des yachts spatiaux très haut de gamme. Ses méthodes de construction, quasi artisanales, expliquant aussi les délais de livraison. Comme on le disait dans la bonne société de l'époque, acquérir un Saint-Christophe n'était pas à la portée du premier milliardaire venu. Un tel vaisseau, ça se mérite. Donc, en plus d'être très riche et très patient, il fallait montrer patte blanche. Le vicomte se permettait le luxe, c'est le cas de le dire, de choisir ses clients. Nombreux seront ceux qui n'auront même pas droit à un rendez-vous avec lui. Mais une fois arrivé dans son bureau, il fallait encore lui donner envie de fabriquer ce vaisseau. Et si par miracle le projet lui plaisait, il fallait, en plus de faire un très gros chèque, se plier au planning d'Isidore. Il était le maître des horloges. Vous allez l'avoir, votre vaisseau, avec les raffinements les plus exquis que l'on puisse imaginer. Mais quand il l'aura décidé. Et si vous n'êtes pas joisse, la porte, c'est par là. D'autres se sont donc dit que faire des vaisseaux plus rapidement et moins cher, ça pourrait intéresser du monde. Les simples millionnaires, quoi, le menu fretin. Et ils vont être plusieurs à avoir la même idée. Vont alors fleurir les chantiers de fabrication de vaisseaux de luxe. Avec plus ou moins de bonheur. On ne s'improvise pas ingénieur en structure spatiale d'un claquement de doigts. Voilà ce que c'est que de déchiffrer un nouveau domaine. Un jour, on sort un magnifique vaisseau qui va gagner le trophée Asimov. Ah oui, le trophée Asimov n'existe pas encore à votre époque. Il s'agit de réaliser le plus vite possible le trajet Terre-Jupiter avec une quantité donnée d'énergie. Ceci dans le but de favoriser la meilleure navigation spatiale en jouant au billard gravitationnel avec les planètes du système solaire. Un sport de gentleman pilote, où la force brute n'a aucune valeur. Un peu comme ces courses de voiliers, là où un bateau à moteur remplit ras la gueule de mazout les batteries à plat de couture. Donc, bref, un jour vous gagnez ce trophée, et le lendemain, le tout dernier vaisseau sorti de votre chantier va se disloquer au large de Mars. C'est ainsi que ce qui reste du Goliath, construit pour le roi du pétrole synthétique Archibald Rosemeyer, deviendra le plus gros satellite artificiel de la planète rouge, avec la dépouille de ce pauvre Archibald à l'intérieur. Une fois les plâtres essuyés, une démocratisation du voyage spatial de masse va trouver son chemin, et des vaisseaux de plus en plus grands vont sortir des ateliers orbitaux. Deux catégories vont apparaître. Les engins à la capacité maximum de 100-150 passagers, proposition des conditions plus que correctes, voire semi-luxueuses. Ces vaisseaux visent les classes supérieures avec un tarif en conséquence. Il y aura aussi les unités les plus grosses, 600 à 800 passagers. Elles seront un peu à l'image des grands bateaux de croisière de ce début de 21e siècle. Les tarifs sont abordables, mais le contexte est moins opulent. Le terme « bétaillère » vient assez rapidement pour les décrire. Qu'on s'entende bien, le tout se fait en toute sécurité. Hors de question de brader ce domaine. C'est bien le seul. Au fil du temps et de l'expérience des constructeurs, un constat s'est dessiné. Au-delà des 800 passagers, la construction d'un vaisseau devient extrêmement complexe, voire impossible. Plusieurs vont s'y essayer et s'y casser les dents. Une sorte de plafond de verre cosmique qui empêche d'envisager un transport spatial de masse. Jusqu'à ce que... En 2312, une nouvelle entreprise de construction de vaisseaux va apparaître. La compagnie Céleste de Voyage, dont le but est très clair. Fabriquer exclusivement des unités de voyage spatiales de grande capacité. Les dirigeants de cette boîte vont susciter l'interrogation, la moquerie, la suspicion et même le dénigrement. D'autant plus que la création de cette entreprise sera nimbée de mystères. Ses fondateurs sont de sombres inconnus, sans aucune expérience dans le domaine. Raison de plus pour leurs concurrents et les autorités d'être dubitatifs. Cerise sur le gâteau, on ne connaît rien de la méthode de fabrication des 10 vaisseaux. Alors, précurseur ou charlatan? Le flou sera savamment entretenu par les fondateurs pendant plusieurs mois, favorisant les plus folles rumeurs. Les commentateurs crieront à l'arnaque pure, au coup de bluff pour faire parler des deux hommes. Mais justement, ces deux hommes, qui sont-ils? Forbin Desmarais, un Français qui a suivi un parcours universitaire scientifique. Il est titulaire de deux masters en structure spatiale et en thermodynamique. Le forfait de base pour construire un vaisseau et le faire avancer. Son associé, Euphraste Martz, un germano-belge, a quant à lui un parcours moins classique, en tout cas pour ce qui est de fabriquer des véhicules spatiaux. Il est diplômé en informatique, spécialité intelligence artificielle. Il aurait participé à la création de plusieurs IA connues du grand public et ce dans divers domaines. Cette affirmation sera toujours sujette à caution. Les inventeurs officiels d'Edith IA ne confirmeront jamais sa participation, publiquement en tout cas. Certes, de nombreuses entreprises font appel à des intelligences artificielles pour leur fonctionnement, mais bon, on en est revenu. Passé le moment de hype du phénomène, on s'est rendu compte que les IA n'étaient souvent que des outils statistiques qui ne ressortaient que ce qu'on leur donnait. Surtout dans le domaine créatif. Certes, il y a eu des avancées dans le domaine médical ou l'industrie, mais rien de bien bouleversant. Dans l'ingénierie spatiale, beaucoup d'entreprises faisaient sans intelligence artificielle. Pour preuve, la société Saint-Christophe. À aucun moment, une intelligence artificielle n'intervenait dans la conception d'un vaisseau. D'autres s'en servaient, mais à la marge. Alors, pourquoi donner une si grande place dans l'organigramme à un spécialiste en IA? La réponse viendra le jour de la présentation de leur prototype. Le 21 juin 2314, la presse et tout ce qui compte dans le domaine est invité à la cérémonie d'inauguration du premier vaisseau de la compagnie Céleste de Voyage. Le vaisseau est un petit modèle, classique pour un proto. On essaye d'abord les choix techniques sur un exemplaire de taille réduite, pour éviter de modifier, endommager ou même de perdre une grande unité pendant les tests. Desmarais et Martz ont fait les choses en grand. Grand salon moquetté dans une station orbitale, déluge de petits fours et de champagne, personnel en livrée aux petits soins et une grande baie vitrée, à travers laquelle on ne voit rien, pour le moment. Après un long discours vantant les mérites novateurs de leur entreprise et les habitudes du secteur qu'ils vont secouer, voilà enfin le moment de dévoiler l'annonciateur d'une époque nouvelle. Et ce n'est pas une figure de style, c'est son nom. Annonciateur d'une époque nouvelle. Je vous sens dubitatif. N'ayez crainte, hein. L'assistance a eu la même réaction. Il a fallu que Martz, l'expert en IA, prenne le temps d'expliquer cette bizarrerie pour que tout le monde, sans être emballé, saisisse au moins le concept. C'est l'intelligence artificielle qui a choisi le nom. Face à l'incrédulité de l'audience, Martz a expliqué son rôle plus précisément dans la société. Il gère l'IA qui va s'occuper de beaucoup de choses. Déjà, le nom. On pourrait se dire que l'IA donne plusieurs noms à partir d'une consigne et qu'ensuite les dirigeants fassent leur choix. Non. L'IA, qui s'appelle PTA, qui est le nom du patron de la construction, de la métallurgie, de la sculpture dans le panthéon égyptien, a décidé d'elle-même. Et par contrat, Le nom que Ptah donnera à chaque vaisseau sera le nom officiel, sans aucun droit de regard des humains. Ça a promis pour la suite. Et pour info, Ptah a choisi son nom par elle-même et bien sûr toujours indépendamment des dirigeants. Une fois passé le moment de flottement qui a suivi l'annonce du nom, il est enfin temps de dévoiler la ligne du vaisseau. Et comment dire, ce n'est plus du flottement dans l'air. C'est un silence gêné. Vite rompu par des applaudissements polis. L'annonciateur, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Et comment dire, moche. On va pas se mentir. Il a un air patatoïde, boursouflé. Le réacteur situé à l'arrière de l'engin a le mérite par défaut d'indiquer quelle partie est censée être l'avant. On nous dit qu'il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Mais là quand même, compliqué. Les vaisseaux des concurrents sont mille fois plus élégants. Racés, presque aérodynamiques, sans aucune raison dans l'espace, mais dans l'inconscient collectif, le public réagit à des codes visuels qui n'ont cours que sur Terre. Un vaisseau luxueux doit être profilé, point. Et le client a toujours raison. Sentant un léger malaise dans l'assistance, les deux hommes vont tenter d'expliquer qu'il s'agit d'un prototype, donc créé uniquement à visée utilitaire. Que c'est Ptah qui a élaboré le design de l'engin sur des critères purement objectifs, sans faire de compromis bassement publicitaires. Et là aussi, Ptah est le seul maître à bord. Démarrer à bien spécifier les caractéristiques et les contraintes, c'est l'IA qui a construit le vaisseau. Mais j'y reviendrai. Bon, à force d'arguments, ils vont réussir à sauver la face. Et les spectateurs présents pardonnent cet essuyage de plâtre de la part d'une entreprise très jeune. Bon d'accord, il est moche, mais il fonctionne bien ? Oh oui. Dès son premier vol en dehors de la zone de gravitation terrestre, il va pulvériser le trophée Asimov. Le record précédent était de 4 jours, 15 heures et 4 minutes. L'annonciation va le faire en 3 jours, 20 heures et 45 minutes. Record qui ne sera pas validé car ce n'était pas un vaisseau de transport de passagers. Il a juste un équipage et des techniciens pour faire fonctionner les instruments de mesure. C'est un vol technique. Point. Desmarais et Martz n'ont pas rué dans les brancards. Ils le savaient avant même le départ. Ce voyage n'était de toute façon pas fait pour ça. Et ils l'ont annoncé. Un jour ils reviendront avec un vrai vaisseau entre guillemets et ils vont atomiser le record. Ambitieux comme propos. Le vol inaugural aura donc été un succès, les suivants également. Pendant un an, l'annonciateur va sillonner le système solaire pour valider les choix parfois audacieux de démarrer, mais aussi ceux de Ptah. Car même si la base est fixée par l'homme, l'IA a une certaine latitude dans la fabrication du vaisseau. Tout en respectant bien sûr les incontournables de la sécurité de base. Et donc, pour la construction, comment ça se passe ? Desmarais fixe les grandes lignes, les impératifs, et Ptah mouline tout ça avant de commencer la construction. Elle a tellement les mains libres que le rendu du calcul de l'engin n'est même pas présenté aux humains. Toute l'équipe va découvrir le vaisseau quand il sera terminé. La construction de l'annonciateur s'est faite dans un chantier orbital clos. Le vaisseau était assez petit pour être rassemblé dans un hangar spatial. Concrètement, ce sont des milliers de petits robots qui vont le fabriquer. Des machines grandes de quelques centimètres pour les plus grosses. Des imprimantes 3D sur pattes qui vont superposer les couches d'un alliage d'aluminium élaboré exprès pour ce vaisseau. Une formule qu'on suppose facilement inventée par Ptah. Pour en revenir à la construction, les couches de matériaux se superposent à la particularité près que cela se passe dans l'axe longitudinal. De l'arrière vers l'avant. Et au fur de l'avancement, tout est construit d'une seule pièce. Quand je dis tout, c'est tout. L'armature, la coque, les ponts, les cloisons, les hublots, tout ou presque. Pour ce proto, le moteur a été réalisé selon une méthode plus conventionnelle. Mais l'IA l'a complètement intégré dans la structure. Les équipements de contrôle ont bien évidemment été rajoutés après. L'aluminium était fondu sur place pour être réparti entre les robots imprimeurs, de manière à ce qu'il n'y ait aucune jonction entre leurs passages. le métal en fusion s'agglomérant à la coulée précédente en un flux continu. Le chantier va durer 49 heures ininterrompues. Aucune coupure n'étant permise. Le métal ne présentera aucune aspérité, décalage ou le moindre raccord. L'annonciateur peut être considéré comme un seul et énorme morceau d'aluminium massif. Selon le témoignage des techniciens qui ont participé au vol inaugural, l'ergonomie à l'intérieur est, je cite, « bluffante au-delà de tout ce qui a déjà été fait ». Et ce n'est qu'un vaisseau test. La question se posait du pourquoi de l'importance de Mars dans l'organigramme. Au vu de la prédominance de Ptah dans la conception des vaisseaux et du choix des noms, la réponse est toute trouvée. Donc les essais sont concluants, les choix techniques validés. Un deuxième proto est construit, de la même façon, avec en plus la fabrication du réacteur totalement confié à l'IA. Des réacteurs conçus par Ptah avaient déjà vu le jour, mais étaient cantonnés au banc d'essai. Le nom de ce deuxième vaisseau, le cadet au point du jour. Ne vous embêtez même pas à chercher un quelconque sens à tout ça. L'étape suivante est la fabrication de vaisseaux commerciaux construits sans aucune intervention humaine. La montée en puissance se fera progressivement. La première unité commerciale disposera de 200 places. Son nom, Exégèse dans l'extase, imbitable. Il n'empêche que les places du voyage inaugural vont s'arracher. Les curieux sont nombreux. Personne jusqu'à présent n'a pu visiter le vaisseau. Mais également celles et ceux qui voulaient être présents pour pouvoir dire « J'y étais ». J'ai participé au premier voyage de ce genre d'engin. Les réservations pour les vols suivants vont être nombreuses, mais pas en aussi grand nombre qu'espéré, au vu de la frénésie, en tout cas pour le premier. Les gens étaient enthousiastes, mais pas téméraires. Oui, quels allaient être les retours d'expérience des passagers de ce voyage inédit et qui est prévu de durer une semaine. Bon, je vais pas faire durer le suspense le plus longtemps, personne ne trouvera rien à redire. Confort, ergonomie, restauration, sécurité, loisirs, pas un seul domaine ne sera pris en défaut. Dès lors, c'est une avalanche de réservations qui va débouler. L'exégèse est complet pour les 25 prochains vols. C'est le signal pour la compagnie Céleste de voyage. Elle va enquiller les constructions à un rythme pas forcément frénétique, mais régulier, avec un nouveau vaisseau tous les 18 mois. Avec la même recette, tant pour la conception que pour le nom de baptême. Dans le public, un slogan publicitaire humoristique va apparaître. Avec la compagnie Céleste, vous voyagez bien. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont moches leurs vaisseaux. Fidèles à eux-mêmes, Desmarais et Mars laissent les coups des franches à Ptah. Mais on peut accorder à l'IA d'être prolifique et varié dans les designs. Il n'y a pas deux vaisseaux qui se ressemblent. Mais ils sont toujours hideux. Étonnamment, et heureusement, l'intérieur n'a aucun rapport avec la carlingue. La décoration est de la vie de tous un succès total, un enchantement. Raffiné, chaleureux, mais pas trop chargé, aucune faute de goût. Pas surprenant, l'intelligence artificielle va piocher dans toutes les publications récentes de décoration d'intérieur. Elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, pomper les idées des autres et la cracher en un parfait agglomérat de tout ça. Au départ, ce pillage dans tous les domaines avait provoqué des levées de boucliers. Mais les programmateurs d'IA n'ont cessé d'être plus subtils. Aux grandes dames des créateurs bien humains. Au bout de 9 ans, ce seront 6 vaisseaux qui font voyager les terriens dans l'ensemble du système solaire. Et toujours dans un grand luxe, tout en sobriété. Les vaisseaux sont grands, mais n'ont aucun rapport avec les bétaillères évoquées plus tôt. Les deux hommes avaient mis un point d'honneur à ce que les voyages se fassent dans le luxe, le calme et la sérénité. L'exégèse dans l'extase fait des petits voyages, entre guillemets, surtout vers Mars et ses satellites avec un crochet par la Lune. Les suivants dans l'ordre de fabrication, l'arpenteur des roches, lui fait le tour des planètes telluriques du système solaire. Mercure, Vénus, Mars, la Lune et la ceinture d'astéroïdes. Le troisième, le transporteur impassible, fait le tour de Jupiter. Les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes font les tours de Saturne, Uranus et Neptune. Le septième à sortir des ateliers de la Compagnie Céleste sera d'un autre tonneau. Jusqu'à présent, les vaisseaux pouvaient embarquer entre 400 et 800 passagers. Le prochain affichera 1200 places. Il fera le tour de l'intégralité du système solaire et occasionnellement, il poursuivra les comètes qui y entreront. Avec ses prédécesseurs, on tapait dans le haut du panier de ce que les concurrents faisaient. À partir de ce moment, c'est l'inconnu. Du moins officiellement. Je dis officiellement car il semblerait qu'une coque de la taille du prochain vaisseau aurait été construite en secret pour vérifier concrètement si le concept tenait la route. Toujours est-il que la construction de la prochaine unité de la compagnie débute le 12 mars 2324 et va durer une semaine et demie. 10 jours sous haute tension pour la société, car aucune rupture de l'approvisionnement en métal ne serait permise. Autant 49 heures pour l'annonciateur, ça passait pas trop mal, mais une semaine et demie, avec tant de paramètres à gérer. Au bout de 250 heures de tension pour les dirigeants de la Compagnie Céleste, c'est la libération. Et c'est par une annonce lapidaire, mais un brin comique, que la naissance, entre guillemets, du petit dernier de la flottille est officialisée. Nous avons le plaisir et la joie de vous annoncer la venue au monde d'un vaisseau nommé le Ventre Fécond. Le bébé et ses 2560 mamans, les imprimantes 3D, se portent bien. 450 mètres de long, 14 000 tonnes, beau bébé. Autant le nom est bizarre, comme d'habitude, autant la forme est presque pas moche. Il n'est pas joli, n'en rêvons pas. Mais il paraît presque banal par rapport à ses grands frères. Il ressemble à une grosse branche d'arbre sur laquelle on aurait coupé les excroissances, mais en laissant la base. Les mystères de l'IA. Les excroissances rabiotées vont servir de baie d'observation. D'après les explications des patrons de la compagnie, c'est le meilleur moyen, le plus fiable et solide pour concevoir une ouverture dans la coque du vaisseau. On n'a pas d'autre choix que de leur faire confiance. Contrairement aux autres vaisseaux, la presse est conviée à visiter le Ventre Fécond à l'occasion de son lancement. Sans grande surprise, la décoration est belle à tomber. Les premiers visiteurs sont unanimes. Ils seraient prêts à tuer pour obtenir le sésame pour participer à la croisière inaugurale. Celle-ci est prévue le 14 avril 2324. Juste le temps de faire un tour à vide autour de la Lune pour vérifier le fonctionnement de l'engin. Même pour ce vol technique de quelques heures, il n'y a pas eu de difficulté à trouver du monde pour tester les fonctionnalités proposées dans le vaisseau. Pour ce qui est des réservations, les 1200 places seront vendues en 2 minutes. Voici donc qu'arrive le 14 avril. Les passagers sont accueillis en grande pompe. L'événement est mondial, diffusé sur quasiment tous les réseaux de communication. Le défilé des passagers est à l'image de celui du tapis rouge au Festival de Cannes. Des stars, des capitaines d'industrie, des milliardaires, des vedettes des médias, une flopée d'artistes. Le programme de la croisière est dévoilé dans une cérémonie digne des plus grands événements musicaux. Après son départ, le vaisseau va faire le tour de la Lune. Il ira vers Mercure et Vénus, avec un survol au plus proche des planètes. Ensuite, route direction Mars, avec une excursion sur la planète rouge pour quelques-uns des passagers. Oui, ça c'était une surprise. Les plus gros clients auront le droit à une descente sur la surface à l'aide de petites navettes dont la construction avait été gardée secrète. À suivre la ceinture d'astéroïdes, et le plus gros morceau, si je puis dire, les géantes gazeuses. Au cours d'une orbite autour de Jupiter, une soirée-concert est organisée dans la plus grande baie d'observation du vaisseau. Et pour finir, Uranus et Neptune avant de revenir vers la Terre. Le voyage durera 14 jours. Et voilà enfin le moment du départ. Pour ce moment historique, la Compagnie Céleste a fait les choses en grand. Tous les vaisseaux de la flotte sont présents et vont escorter le Ventre Fécond en formation pour une parade autour de la Terre. L'annonciation d'une époque nouvelle est même ressortie des ateliers pour prendre la tête de cette escadrille lors de la parade, comme pour boucler la boucle. Une fois l'orbite effectuée, les petits vaisseaux entre guillemets vont s'écarter un par un pour laisser le ventre fécond accélérer. Les petits vont eux aussi partir pour leur voyage respectif. Tous les vaisseaux sont de sortie et sont pleins. Les patrons de la compagnie tenaient à ce que tous partent en même temps pour en mettre plein la vue. Et c'est réussi. Sur toutes les télés, la fête bat son plein. Une sorte d'euphorie s'est emparée de la population. Le pari fou de deux illustres inconnus, lancé il y a maintenant 12 ans, est en passe de réussir. Ils ont pu faire ce que tant d'autres n'osaient même rêver. Ils ont fait sauter ce plafond de verre cosmique. Ils ont été audacieux, innovateurs. On leur a ri au nez, on s'est moqué d'eux, on les a même pris pour des fous. Mais ils ont tenu bon, et ils ont réussi. Ils ont atteint l'Olympe. Ils sont sur un petit nuage. Mais ils vont vite redescendre.